Bonjour à toutes et à tous, Christophe Jubien pour vous accueillir aujourd'hui à bord de votre émission Écho de ma commune. Nous avons réuni aujourd'hui un plateau de toute beauté pour évoquer une urgence, l'accueil des migrants dans notre département. Autour de moi, Madame la préfète de Chartres, Sophie Broca, Pauline Siro, chef adjointe du service aménagement, urbanisme et habitat à la direction départementale des territoires, Jean-Bernard Richer, directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection de la population, et puis Richard Bertrand, chef du service du CADA et du CAO. Je reste avec les acronymes, vous nous expliquerez tout à l'heure de quoi il s'agit. Et puis, notre dernier invité, Youssef, qui est un jeune émigré de Benghazi, en Libye, et il nous racontera tout à l'heure le long voyage qu'il a dû effectuer avant d'arriver à Châteaudun, où il réside désormais. On lui souhaite la bienvenue sur les ondes de Radio Rancière.
Merci.
Sophie Broca, avant d'évoquer la situation des réfugiés en Eure-et-Loire, peut-être deux mots sur la politique du gouvernement en matière d'accueil des migrants. C'est une politique qui se veut à la fois raisonnable et généreuse. Est-ce que c'est un équilibre difficile à trouver ?
L'équilibre s'agissant d'hommes et de femmes qui tentent leur chance ailleurs, évidemment, c'est toujours difficile de le trouver. Néanmoins, je crois que la volonté du gouvernement et un débat parlementaire sur un projet de loi débute ces jours-ci, ou débutera ces jours-ci. La volonté du gouvernement, c'est au fond de dire ceux qui arrivent en France et qui n'ont pas vocation à rester dans notre pays parce qu'ils fuient la misère, peut-être, ils espèrent une vie meilleure sans doute, mais leur vie n'est pas menacée. Alors, ces personnes-là, il faut pouvoir leur dire non plus vite. Ça veut dire instruire leur demande plus vite, leur faire une réponse plus vite et les aider à retourner dans leur pays plus vite, y compris avec des aides financières pour les aider à s'installer convenablement dans leur pays. Voilà. Et à côté, ceux qui, en revanche, sont poussés sur les routes de l'exil, par la guerre, par l'État islamique, par la terreur, par les mises en esclavage, parce que, voilà, ceux-là, il faut qu'on puisse leur dire plus vite oui et plus vite aussi les accompagner sur le chemin de leur vie pour qu'ils retrouvent leur liberté parce que la France a cette tradition d'accueil et que sans elle, la France ne serait pas la France.
On sait que cette future loi alors déplaît à certaines associations qui trouvent qu'on n'en fait pas assez, mais à l'autre bord, si j'ose dire, elle déplaît à certains partis politiques qui trouvent qu'on en fait trop. Ça veut dire que c'est un bon projet, ça, généralement, non? Quand ça déplaît aux deux.
Tous les cas, c'est l'honneur de la France, et ça, je crois que le président de la République et le ministre de l'Intérieur le disent avec fermeté, c'est l'honneur de la France, et ça, c'est sa tradition millénaire d'accueillir ceux dont la vie est en danger ailleurs, à cause de l'obscurantisme, à cause de la tyrannie, à cause de la guerre. Voilà. Donc, ceux-là, nous devons les accueillir, et c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui, pour échanger avec vous, à travers l'histoire de Youssef, notamment. Nous devons les accueillir, et les accueillir dignement, c'est-à-dire au moment où ils ont obtenu la protection de la France, qu'ils sont en situation régulière, qu'ils sont réfugiés. Eh bien, il faut qu'on les accompagne vers le logement, vers l'apprentissage du français, parce qu'on ne sait pas se débrouiller dans ce pays si on n'en parle pas la langue, vers une formation ou vers un emploi, parce que, vous savez, ce sont pour la plupart, il y a quelques familles, mais pour la plupart, ce sont des hommes jeunes, des hommes extrêmement motivés pour travailler, pour s'en sortir, des hommes qui ont eu des métiers dans leur pays, des hommes qui sont débrouillards, qui ont survécu à des choses terrible et dont la volonté et le caractère téméraire n'est pas à démontrer. Et donc voilà, ils sont prêts à travailler et il faut qu'on les accompagne vers cette intégration-là. Je voudrais aussi dire pour certains esprits chagrins qui nous disent que la France est en train d'être submergée par une vague considérable d'immigration, que les chiffres parlent. Les chiffres, c'est quoi? C'est 100 000 demandeurs d'asile l'année dernière, enfin en 2017, en France. C'est un peu plus qu'en 2016, mais ça n'est pas ce tsunami dont on nous parle, puisque en 2016, c'était 16% de moins de demandeurs d'asile. Vous voyez, l'augmentation, elle n'est pas énorme. Pour mémoire et par comparaison, en Allemagne, ce sont 200 000 demandeurs d'asile. Alors, tous les demandeurs d'asile ne vont pas obtenir le titre de réfugié. C'est à peu près 4 sur 10, un peu moins de 40% qui obtiennent la protection de la France, encore une fois, parce qu'ils ont voulu échapper à l'armée en Érythrée, à l'État islamique en Syrie ou en Libye, que les femmes ont voulu échapper au voile intégral ou faire que leur petite fille ne soit pas excisée. Voilà, c'est 40%.
Il y a plein de bonnes raisons, évidemment, aujourd'hui, malheureusement, de fuir son pays. Alors, l'enjeu, c'est évidemment de répartir harmonieusement la population migrante sur le territoire français pour éviter que se reconstitue ce qu'on appelle des jungles, comme à Calais. Alors, finalement, la répartition, elle se fait comment ? C'est-à-dire que le gouvernement vous dit, voilà, il faut accueillir tant de personnes dans votre département ?
Exactement. Exactement. Le gouvernement a décidé que pour les personnes en situation régulière, encore une fois, on ne parle pas des migrants, là, on parle des réfugiés, il fallait que nous mobilisions tous les préfets de France 20 000 logements sur l'année 2018. Plutôt des logements sociaux ou des logements à loyer social, c'est-à-dire des loyers peu élevés parce que les migrants qui arrivent, certains sont très diplômés, mais d'autres moins. Et voilà, ils n'ont pas, quand ils travaillent, ils n'ont pas des salaires considérables. Donc ces 20 000 logements, ils ont été ensuite répartis par région. Pour la région Centre-Val de Loire, c'est 1 000 logements qu'il faut mobiliser sur l'année, et pour l'Eure-et-Loire, c'est 200 logements, à la fois pour des réfugiés qui sont des hommes seuls et pour des familles qui vont arriver directement des camps de Jordanie, puisque ça aussi c'est un engagement du président de la République, que certaines familles dont on est sûr et certains qu'ils obtiendront le titre de réfugiés de la France ne soient pas obligés d'exposer leur vie en traversant la Méditerranée, mais qu'ils puissent être rapatriés avec un titre. Donc ces familles-là aussi vont arriver. Donc pour l'Eure-et-Loire, ce sont 200 logements qui sont attendus de nous pour accueillir les réfugiés.
Alors on lancera un appel tout à l'heure, parce que évidemment vous avez rencontré les bailleurs sociaux pour trouver des logements, mais les auditeurs de Radio Grand Ciel, les auditrices sont aussi appelés à faire preuve de générosité. Avant cela, j'aimerais pour que nous prenions tous la mesure de ce que ont enduré les réfugiés lors du périple qui les a conduits chez nous, j'aimerais céder la parole à Youssef. C'est un jeune Libyen qui vit à Châteaudun depuis quelques mois. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre voyage, Youssef ? D'abord, qu'avez-vous fui ?
Mon voyage depuis quand ?
De quel pays êtes-vous
Je viens de Libye.
De Libye. Ouais. Je crois que vous habitiez à Benghazi, et on sait que Benghazi
était... Oui, j'habite à Benghazi, c'était la deuxième ville au Libye. C'est là, la guerre, elle est commencée là-bas aussi.
Oui. Alors, vous avez fui la guerre, finalement. Quelle est la situation là-bas ? Qu'est-ce que vous avez fui très exactement, en fait ?
La situation là-bas, c'était nul, vraiment. Il y a toujours... les mortes.
Oui.
Il y a 50, il y a 10, il y a 100, il y a 200.
Oui.
Ton voisin, ton frère, et comme ça.
Oui.
Le mort, il arrive.
Je vais être très indiscret, vous avez quel âge ?
J'ai 28 ans.
Alors, quel a été votre voyage à partir du moment où vous avez quitté Benghazi ? Comment ça s'est fait ?
Pour moi, pour rester là-bas, est-ce que je reste là-bas, je mors.
Oui, d'accord.
Parce que vraiment, mon père et mon frère, il est mort dans mon voiture. Ah, oui. Parce que normalement, il est cherché moi. Normalement, je mors, c'est moi. Mais c'est une chance quand même, ou le courage.
Oui.
Mais après... Je discutais, je parlais un peu avec ma mère. Il faut sortir. Ouais. Il faut rester pas au mon pays.
Ouais.
C'est pour ça, il n'y a pas de choix.
Oui. Donc vous avez été obligé de quitter votre mère pour venir ici.
Ouais, je sais.
Comment le voyage, vous pouvez nous raconter ? Vous avez pris le bateau. Est-ce que vous avez, par exemple, été confronté à des passeurs ? On sait qu'il y a des passeurs.
Ben ouais.
Comment ça s'est passé ? Vous pouvez nous raconter ?
Un peu, je demande de l'aide là-bas. Parce que là-bas, nous, le Libyen, là-bas, nous traverse pas la mer. C'est juste le migrant qui arrive au Libye, qui vit à Libye. Fait le dangereux, il traversait. C'est facilement pour les migrants ou Libye qui trouvaient le passeur.
Le passeur.
Voilà. C'est plus facile pour les migrants comme nous. pour trouver quelqu'un pour aider,
Oui.
pour trouver le bateau pour traverser.
Ouais. Pour trouver quelqu'un finalement de votre
Ouais,
pays, quoi. C'était plus
ouais,
facile.
ouais.
Et donc vous avez pris le bateau, c'est ça? Vous avez embarqué sur un bateau, un de ces bateaux qu'on voit traverser la Méditerranée, c'est ça? Ouais. Et les conditions du voyage ont été, j'imagine.
Le voyage de la mer, c'est 4 jours, 2 jours, comme ça.
Et vous étiez nombreux dans le bateau?
Nous et nous plus de 200, 250, comme ça, personne. Il y a 4 autres lois, elle est morte, mais c'est lavé.
Ouais. Avec, j'imagine, pas facile de manger, de boire. Il n'y avait pas forcément la place pour emmener des provisions. Comme...
Ouais. T'avances pas pour le manger ouais. à ce moment dans la mer. Hein.
C'est d'arriver vivant, quoi. C'est
ouais.
ça qui compte.
Ouais.
Vous êtes arrivé en Italie, vous êtes arrivé où?
En Italie,
Peu importe, hein. Vous êtes arrivé en Italie en tout cas. Et
ouais.
puis après, vous avez décidé de venir en France. C'était
ouais.
votre souhait au départ, c'était de venir en France.
Ouais, vraiment, je choisis France.
Ouais.
Parce que vraiment, France, c'était la terre d'asile.
La terre d'asile.
Ouais.
D'accord.
Et je veux dire merci pour la France. Vraiment.
Et donc, comment vous êtes arrivé à Châteaudun, par contre? Comment
à Châteaudun, que j'arrive à Paris, je fais le demandeur d'asile là-bas, à Nanterre, à préfecture de Nanterre. Donc, je reste à Paris 1 an, exactement. Mais je reste avec un ami, dans un appartement à 92.
D'accord.
Pour l'Ampli
encore. Dans les Hauts-de-Seine.
Ouais. Après, c'est très gentil. Les copains, moi, 1 an, ça, il n'y a personne qui fait comme ça. Après, il faut trouver une solution.
Ouais.
Après, je reçois le papier avec le syndicat. Ça va, là, je suis un réfugié en France.
C'est un soulagement?
Ouais.
Ouais,
donc, c'est comme ça que quelques jours, je reste à Stalingrad, à Paris. Et je dis encore merci en France, merci Dieu, qu'il y a des femmes comme Madame Sophie Broca, elle travaille pour aider les migrants. Comme il a dit avant, ça, comme le tsunami des migrants est arrivé en France, au partout de l'Europe, il faut trouver une solution pour tout le monde est couché sur la trottoir.
Ouais, il suffit d'aller à Paris pour constater à quel point... La situation est terrible. Hein. On fait 300 mètres à pied à Paris et on en rencontre beaucoup allongés sur des matelas, des familles entières, des petits-enfants, des vieillards. C'est une situation excessivement douloureuse. Je suppose donc que vous êtes arrivé donc à Châteaudun. Là, vous êtes arrivé au studio avec Monsieur Richard Bertrand, qui est chef du service du CADA et du CAO. C'est-à-dire que vous avez eu votre part, j'imagine, dans l'accueil de Youssef. Alors d'abord, peut-être nous présenter ce qu'est le CADA et ce qu'est le CAO.
Alors, on va procéder par étapes. Donc, le CAO, c'est le centre d'accueil et d'orientation qui a pour mission essentielle de mettre à l'abri donc, les personnes qui arrivent effectivement de Paris donc, et ensuite de travailler en fonction de leurs désirs, puisque certains vont vouloir poursuivre leur parcours migratoire. D'autres vont vouloir, effectivement, comme disait Youssef, s'inscrire dans une procédure de demande d'asile. Et donc, l'équipe sociale va s'attacher à accompagner ces personnes dans cette démarche. Donc, ça, c'est le CAO. Et dans un second temps, dès lors que les personnes seront dites en procédure normale, ils pourront être orientés vers le CADA, donc, qui est le centre d'accueil des demandeurs d'asile. Et donc, il y a une structure spécifique avec des travailleurs sociaux également qui vont accompagner donc, les personnes dans les démarches administratives, dans l'accès aux soins, dans la question effectivement de la gestion de l'attente, puisque les personnes aujourd'hui ne peuvent pas travailler en étant demandeurs d'asile. Donc, il y a toute cette gestion d'attente à mettre en place avec la priorité qui demeure l'apprentissage de la langue. Et comme vous avez pu le constater, Youssef... maîtrise très bien notre langue, puisqu'il est resté quand même un certain temps sur le territoire et il a pu bénéficier également des cours de français mis en place par l'association Agir ABCD, qui intervient sur Chartres, mais également sur Châteaudun.
Oui. Oui, il y a tout un accompagnement. C'est important de le dire, Sophie Broca, il y a quelque temps déjà, vous nous aviez parlé, justement, il y a des partenariats qui sont mis en place entre la préfecture et des associations, par exemple pour la formation professionnelle des migrants. C'est important parce que les loger, c'est bien, mais eh bien, il faut qu'ils puissent s'insérer.
Oui, alors, comme je le disais, il y a autant d'histoires que de parcours Nous avons des gens très qualifiés qui avaient des métiers assez rares dans leur pays. Nous avons des gens qui ont fait tout un tas de petits boulots dans le bâtiment. Nous avons chez les Afghans des gens qui travaillaient dans l'agriculture, des bergers. Voilà. Donc en fonction à la fois de leur parcours, de ce qu'ils savent faire et de ce qu'ils... les motive aussi, parce qu'il s'agit d'aller au travail à peu près avec l'envie de faire ce tel ou tel métier. Nous organisons soit une mise à l'emploi directe, il y a des métiers qui peuvent permettre de trouver tout de suite un emploi, ou bien des formations. Donc là, vous faites allusion à la formation dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle HOPE, qui a été mis en place avec l'AFPA et qui permet Pôle emploi, et qui permet de préparer au métier de soudeur 12 réfugiés. Vous savez que dans ce département, on ne trouve pas de soudeur. Voilà. Être un soudeur, c'est une qualification très recherchée par les entreprises. Ça demande un geste, une précision, etc. Et voilà. Et donc, je suis très heureuse parce que... Enfin, nous sommes très heureux avec Jean-Bernard Richer, puisque les 12 premiers stagiaires ont terminé leur immersion en entreprise et que 100% des chefs d'entreprise ont dit bravo, on les embauche s'ils ont leur qualification, parce qu'ils sont motivés, parce qu'ils ont envie, voilà.
Oui, Jean-Bernard Richer, qui est donc directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection de la population. Vous avez été la première loge dans ce dispositif HOPE. Racontez-nous ça.
Bah écoutez, la DCSPP travaille, est le bras droit du préfet, de la préfète, sur ces questions à la base d'hébergement spécialisé pour les demandeurs d'asile, les CADA, les CAO. Mais il est évident aujourd'hui que pour favoriser l'implantation et le parcours de vie sur le territoire de ces personnes qui ont obtenu le statut de la protection de la France, il faut aller plus loin. Donc il y a l'apprentissage du français, il y a la formation, il y a le débouché sur un emploi. Donc le dispositif HOPE a une particularité, que c'est un dispositif tout à fait intégré qui va offrir à la fois l'hébergement, la formation sur le site de l'AFPA et l'accompagnement social. Le rôle de la DCSPP, c'est un rôle d'assemblier dans cette affaire. On sort de notre rôle, et c'est très intéressant, classique de l'hébergement, pour essayer de faire travailler de nombreux acteurs ensemble autour de cet objectif. Madame la préfète l'a dit, il y a l'AFPA, évidemment. Mais on peut citer des opérateurs du logement social, de l'hébergement, sans lesquels ça n'aurait pas été possible. Ils motivent les migrants qui sont dans leur structure, ils les informent sur ces possibilités. Et ça nous permet, au final, de travailler avec des personnes, des hommes en général, véritablement motivés pour aller sur ces parcours professionnels. Donc HOPE, c'est un petit peu le dispositif phare en ce moment en Eure-et-Loire, c'est l'incarnation du dispositif idéal, si je puis dire, sur des métiers, je le souligne, en tension.
En tension, donc, ça c'est important de le dire.
Ces personnes ne prennent la place de personne sur le marché de l'emploi, ce sont des métiers où il y a de la place pour tout le monde et pour eux, puisqu'ils l'ont souhaité, et on voit aujourd'hui que ça match avec les chefs d'entreprise pour poursuivre cette aventure, nous l'espérons dans le futur. Ça ne se limite pas au métier de la soudure ou au dispositif HOPE. Nous essayons de travailler aussi dans le département d'Eure-et-Loire sur les métiers de l'agriculture. Nous avons là encore des besoins, notamment sur les grandes cultures, sur la période des grandes cultures, la saisonnière. Et donc nous travaillons avec notamment le lycée agricole de la Saussée pour essayer, à l'instar de HOPE, de créer une cohorte, comme on dit administrativement, un groupe, de mettre en place un groupe de migrants hommes aussi, une dizaine, une quinzaine, pour apprendre ces métiers et trouver des débouchés sur nos territoires.
C'est là où on se rend compte qu'on est plutôt bien outillé finalement en France pour l'accueil, pour faire face à ce genre de situation, et surtout qu'il y a beaucoup de bonne volonté. Moi, j'ai assisté à la conférence de presse, de présentation de HOPE, et il y avait une vraie bonne humeur, j'ai trouvé. Évidemment, de la part de nos amis migrants, on les a sentis très, très motivés, mais on sentait tout le monde très motivé dans cette histoire. Et c'était presque une histoire d'amitié autant que de partenariat, non ?
Oui, oui, je crois que ça donne du sens pour les gens. Vous voyez, Youssef, tout à l'heure, a dit « Merci la France », quoi. C'est plaisant d'ouvrir les bras, mais à des étrangers ou à des gens qui sont nés ici et qui ont envie de progresser, de faire un pas, de prendre une main, de monter une marche. Je pense que ça fait résonner notre humanité et oui, ça fait plaisir. Mais encore une fois, pas seulement pour les réfugiés. C'est vrai pour tous ceux qui cherchent à progresser et à ne pas être prisonniers de leur destin.
Oui, puis on le voit dans les structures, les personnes aspirent à travailler, comme le disait Madame la Préfète. Toutes les personnes ont des capacités, ont des niveaux scolaires, des niveaux professionnels assez importants. Et dès lors qu'ils se retrouvent inactifs, ils vont parfois développer des pathologies ou des angoisses, etc. Et très souvent, ils nous le disent, il y a aussi cette notion de contre-don. La France a donné, nous, qu'est-ce qu'on pourrait donner à notre niveau ? Et ça, c'est souvent que dans les structures, on entend des résidents nous dire « je veux travailler, même bénévolement, je veux vous donner un coup de main. En tout cas, regarde tout ce que vous avez fait pour moi, j'ai envie de vous aider également. »
Qu'est-ce que vous aimeriez faire, Youssef? Vous faisiez quoi en Libye? C'était quoi votre métier?
Pétrochimique.
Pétrochimie, d'accord.
Engineering.
Et donc là, vous aimeriez faire quoi? Quel est votre souhait finalement?
Ici en France, pour maintenant, je vais essayer pour apprendre plus. Comme un jour j'arrive ici et je n'ai rien dit tout français, aidez-moi, aide-moi le logement, le papier, je cherche pour apprendre, pour trouver le travail. Oui. Pour essayer pour. Comment je vais dire ça? Je vais essayer même changer château d'eau comme le paradis. Pour faire le fleur, pour faire quelque chose. C'est pas jusqu'à Châteaudun, mais tous les France.
C'est tout le mal qu'on vous souhaite et qu'on nous souhaite, hein, qu'on souhaite également à Châteaudun. Il nous reste 5 minutes, je voudrais qu'on parle. On est là aussi, et peut-être avant tout, pour lancer un appel, Madame la Préfète. Il faut loger 200 personnes en Eure-et-Loire. Non, pas tout à fait 200 personnes, dites-nous.
Non, davantage. Il nous faut 200 logements.
200 logements.
200 logements. Des petits, des grands, pour des hommes seuls, pour des familles. Alors, donc, je l'ai dit tout à l'heure, les bailleurs sociaux du département et les élus, que je salue, les élus de ce département, ont été accueillants. Ils ont parfois émis des inquiétudes, exprimé des inquiétudes au début, mais aujourd'hui, tout se passe bien et on a affaire à des élus qui nous ont aidés. Donc, les bailleurs sociaux, oui, ils vont travailler avec nous pour mobiliser des logements sociaux. Mais nous nous sommes dit que peut-être des propriétaires privés qui ont un appartement qui est vide, ils n'ont pas forcément envie de le louer. Eh bien, si cette cause les mobilise, les intéresse, les emporte, nous leur proposons une offre clé en main, je vais dire. C'est une offre 4 pour 1. Qu'est-ce qu'il y a dans cette offre? Il y a, pour autant qu'ils louent leur appartement qui est vide, il y a la garantie qu'ils seront payés de leur loyer parce que le bail, ils le signeront avec les opérateurs sociaux qui accompagnent les réfugiés. Non pas avec le réfugié lui-même, qui a peut-être besoin d'un peu de temps pour trouver un emploi ou qui travaille de manière intérimaire, mais avec l'association sociale que l'État finance pour accompagner les réfugiés. Donc ça veut dire le propriétaire aura un interlocuteur avec lequel discuter, qui sera certain d'être payé, etc. Deuxième avantage, s'il décide de confier son bien et de signer un bail avec nous, il aura une prime de 1 000 euros dans les zones du département qui sont, comme on dit, les plus tendues, c'est-à-dire globalement Chartres et les franges franciliennes. Voilà. Troisièmement, s'il loue son bien et qu'il le loue à des tarifs sociaux, c'est-à-dire effectivement pas très cher, alors 85% du produit de ses loyers sera déduit de ses impôts. Donc en vérité, il aura une rentrée nette, même si c'est des loyers modestes, multipliés par 12 néanmoins. Et enfin, c'est le quatrième avantage de notre proposition, si l'appartement n'est pas loué et qu'il s'est dégradé, pas dégradé dans des conditions... c'est pas Beyrouth, hein, mais donc il est dégradé, qu'il est plus aux normes, etc. Nous pouvons mobiliser une aide à hauteur de 35% pour aider ce propriétaire à faire des travaux de remise aux normes. Voilà. Donc nous, on fait un appel aujourd'hui à vos auditeurs. Les propriétaires privés qui ont un appartement vide et qui sont prêts à jouer avec nous dans cette aventure, voilà ce qu'on leur offre. Pour nous faire des propositions, comment nous joindre, vous écrivez à la préfète, place de la République à Chartres, à la préfecture, ou bien vous appelez, je vais peut-être donner un numéro
de téléphone, ce sera très bien, et on le rappellera aux auditeurs.
02 37 27 70 09. 02 37 27 70 09. Voilà, nous, on serait très heureux que des propriétaires privés soient partants. Et il nous semble que ce qu'on met comme garantie sur la table devrait pouvoir convaincre un certain nombre d'entre eux. Enfin, en tous les cas, c'est ce que nous espérons.
Donc, soyez généreux et vous serez récompensés. Merci beaucoup Sophie Broca, merci à Pauline Siro, merci à Jean-Bernard Hiché et à Richard Bertrand. Et puis merci pour son témoignage, pour sa présence à Youssef. On lui souhaite évidemment bonne chance de trouver du travail et de revenir à la radio souriant comme il l'est aujourd'hui.
Merci. Merci. Mais avant de finir, je dis merci pour l'équipe de CAO et d'AFI. Et je demande à Madame la Préfète, est-ce que vous êtes là droit pour aider tous les centres, toutes les associations comme les IDAF pour les aider le réfugié en France.
Oui.
Pour apprendre le métier, pour apprendre l'information, pour apprendre les langues. Et c'est le très important, c'est la langue française.
Bien sûr.
Parce que la langue, c'est la clé, c'est la chiffre pour les pieds.
Bien sûr.
Et merci.
Merci beaucoup et merci à Simon en régie. À très bientôt. On va dire, allez, une dernière fois, on redonne le numéro de téléphone si vous l'avez toujours.
Absolument. Voilà. Alors, 02 37 27 70 09 pour tous les propriétaires privés qui souhaiteraient accueillir des réfugiés dans leurs murs.
Merci, Madame la Préfète. Les programmes de Radio Rancière se poursuivent. Nous l'espérons tous pour votre plus grand plaisir. À dans 4 semaines pour une prochaine édition Chartraine, déco de ma commune.